Bonjour tout le monde. Nous voilà déjà en juillet, mois de juin filé. Et pendant le mois de juillet et août, ça va être un peu différent. On aura les enfants avec nous pendant les dimanches matins. Et nous allons aussi accueillir des visiteurs. Alors que chaque dimanche, il y a des visiteurs, mais particulièrement pendant les congés, des gens visitent Bruxelles et vont alors venir à l'église. Donc bienvenue à vous, visiteurs, aujourd'hui. Et vous êtes les bienvenus. Et restons attentifs les uns aux autres, à ceux qui sont là en visite parmi nous. D'ailleurs, il y aura aussi des personnes qui vont partir, et on sera peut-être un peu moins nombreux, mais on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes parmi les heureux qui peuvent aller en vacances. Alors, parce que les enfants sont là, on a une feuille d'activité à compléter pendant le message. Ça vous aidera à rester attentifs. Malheureusement, il n'y a rien pour les parents, donc vous devez juste écouter. Voilà. J'aimerais parler un petit peu de la pression. Pas la dépression, mais la pression. Vous connaissez la pression dans votre vie? En fait, nous connaissons tous diverses pressions sur nous. Je pense à la pression scolaire. Comment est-ce que tu te sentais la veille de ton examen de maths? Maths demain, ou néerlandais, ou je ne sais pas ce qui est le plus difficile pour toi. Pression scolaire. Pression du ministère, 100 personnes viennent, comptent sur toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Pression de performance, tu as été champion la dernière fois, est-ce que tu vas être deuxième cette fois? Ou ta vidéo a fait le buzz la dernière fois, est-ce que cette fois tu vas encore plaire à tous tes followers? Pression, n'est-ce pas, de performance. Il y a aussi la pression, je pense, dans le domaine professionnel. Le travail doit être fait pour lundi à telle heure. Alors on sent la pression de l'échéance, n'est-ce pas, qui vient. Certains doivent travailler le week-end, d'autres travailler ce soir pour être prêts pour demain. Ou dans le domaine médical, ce n'est pas mon domaine, mais j'imagine que si tu dois amputer la jambe à un patient. Il y a une pression sur toi. Est-ce que c'est la jambe gauche ou la droite? Vous ne voudrez pas se tromper, n'est-ce pas? Heureusement, je ne suis pas chirurgien. Pression émotionnelle. Ah, si tu m'aimes, alors tu vas faire ceci ou cela. Ça peut être du chantage affectif, n'est-ce pas? Nous connaissons aussi la pression à long terme. Tu tiens aujourd'hui un bébé entre les bras. Que va devenir ce bébé? Un enfant, un jeune, un adulte. Et tu sais que c'est un peu toi et ta vie avec cet enfant qui va forger son caractère, faire qu'il devienne un jour un homme ou une femme selon ses expériences. Quelle pression sur nous, n'est-ce pas? Les années formatrices avec nous. Alors nous parlons de pression aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'était prévu et annoncé par Jésus, la pression du monde sur les chrétiens. On avait vu la semaine passée que le monde va détester les chrétiens, pourrait essayer de nous faire conformer à son mode de pensée. Et cela se fait de manière subtile mais constante, essayer de nous façonner à un mode de pensée, on doit résister, ne vous conformez pas au monde. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Une pression à entrer dans le moule. Alors face à cette pression, nous n'avons pas les moyens en nous-mêmes. La réalité est que nous sommes trop faibles. Et donc si nous regardons à nous-mêmes pour les ressources, quand nous sommes sous pression, nous ne trouvons pas la réponse. Et souvent avec la pression s'invite aussi son ami la peur. Et on dit « aïe ». Qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Lutte au dehors, crainte au dedans, dit le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Mais heureusement, Jésus en a parlé. Les ados ont parlé des « je suis » pendant ce trimestre dernier, la déclaration de Jésus concernant sa personne « je suis la lumière du monde, je suis » chemin, la vérité et la vie, on a entendu cela la semaine passée. Bien, nous, les adultes, nous avons parlé de l'évangile de Jean également, et on a vu les déclarations de Jésus. Et on continue, aujourd'hui on arrive à la fin du chapitre 16. Et je vous invite à le trouver dans votre Bible, et je vais le lire pour nous. Jean, chapitre 16, versets 16 et suivants. Vous l'avez sous les yeux ? C'est Jésus qui parle, et il dit ceci. Jean, chapitre 16, verset 16. « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit, « encore un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, « encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. » en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Je vais lire la suite tout à l'heure, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on va lire pour comprendre la première vérité qu'il veut nous enseigner. La peine, dit-il, est légitime, la joie est ultime. Jésus a dit des choses énigmatiques. C'est souvent le cas qu'il dit des choses et les gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas tout de suite saisi par ceux à qui il enseignait. Et le verset 16 est un exemple. Il dit, dans peu de temps, vous ne me reverrez pas. Et puis, encore un peu de temps, vous me reverrez. Et les disciples n'ont pas compris. Ce que nous comprenons, parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir le reste de la Bible, nous comprenons qu'il disait par cela, « Dans un peu de temps, je vais mourir, et vous ne me verrez pas, je serai enterré. Et puis, un peu de temps plus tard, je vais ressusciter, et vous allez me revoir, vous me reverrez. » Il ne sera pas vu pendant un temps, et puis il sera vu. On comprend cela. Mais eux, les 11 disciples, ils n'avaient pas compris. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, je pose la question aux enfants, mais c'est peut-être aussi les autres en secondaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé que le prof ou ton institutrice t'enseigne quelque chose, explique quelque chose, et tu ne comprends pas ? Ça t'est déjà arrivé, ça ? Et tu es trop gêné pour lever la main, dire, excusez-moi, non, stop, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais alors dans ces circonstances ? Généralement, ce que tu fais, si tu demandes à un camarade de classe, « Hé, t'as compris quelque chose ?»« J'ai pas compris, tu as compris ?» Et puis parfois, entre vous, vous expliquez, vous avez les explications. Eh bien, c'est ce que les disciples sont en train de faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples. Ils se posent la question, est-ce que tu as compris ? J'imagine qu'ils n'étaient plus à table à ce moment-ci. Ils avaient été à table pour le repas avec le Seigneur. Et ici, je les imagine en train de mettre leurs sandales, de mettre leur veste, parce que Jésus avait dit « Allez, levons-nous, on y va, on part » à la fin du chapitre précédent. Et donc, il avait dit cela. Et donc, ils sont là en train de se parler et Jésus dit « Vous ne me reverrez plus » et ils ne comprennent pas. Il ne va pas dire « Je vais être crucifié demain. » Mais il leur avait dit qu'il allait vers le Père, vers le ciel, qu'il allait préparer une place pour eux et pour les prendre avec lui. En fait, au chapitre 15, il l'avait dit, si on regarde juste le chapitre 15, verset 13, les enfants, vous pouvez aider vos parents à le trouver, Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire là ?« Moi, je vous aime, vous êtes mes amis, et ceux qui aiment vraiment leurs amis donnent leur vie pour leurs amis. » C'est très intéressant que dans l'évangile de Jean, Le mot « mort » ou « crucifixion » n'est pas utilisé avant que ça se passe. Jésus n'annonce pas à l'avance « je vais mourir » en utilisant ce mot-là, en utilisant le mot « crucifixion ». Il dit plutôt « je vais donner ma vie ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour la reprendre ensuite. Vous connaissez ce langage de Jean ? C'est ce qu'il dit pour parler de sa mort. Et là, il est en train de donner déjà un aperçu. Il va donner sa vie pour ses amis. Mais les gens ne comprenaient pas cela, même s'il avait déjà annoncé qu'il allait mourir. Alors là, il se pose la question, les disciples disent « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et au lieu de donner une réponse claire et nette sur les faits, il va donner une réponse sur les émotions, sur ce qu'eux vont ressentir, un ascenseur émotionnel. Regardez le verset 20. « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » À tant de fois dans la vie, nous vivons le contraire. Nous vivons quelque chose comme une sorte de montée de joie à l'approche des vacances, et puis on s'ennuie et ça diminue. On dit enfin, voilà, c'était bien, mais c'était pas si bien que ça. Ou on est super heureux d'avoir des billets à un concert ou un événement sportif, on est content. Et puis après, ben voilà, c'est passé, on oublie, et puis c'est fini. Ou peut-être que l'équipe a perdu, et voilà, on est moins joyeux après. Joyeux d'abord, et puis moins joyeux après. Ça, c'est ce qu'on connaît d'habitude, n'est-ce pas ? Ici, il annonce le contraire. Vous ne serez pas très joyeux, vous serez triste, et puis ça va aller vraiment mieux, et vous allez être dans la joie. Ça va descendre, et puis ça va monter. Vous lamenterez pendant que le monde se réjouira. Alors juste avant d'aller plus loin, il faut comprendre que la tristesse est légitime. Pour les chrétiens, nous pouvons vivre et expérimenter la peine. Jésus n'est pas en train de former des stoïques, des durs, des gens qui vont être impassibles. Jésus ne dit pas « ça va être triste, mais vous ne soyez pas triste. Il ne faut absolument pas ressentir de la tristesse. » Il dit « vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, ça va être triste pour vous. » Il ne les empêche pas de passer par ces événements qui sont réellement tristes. Et on ne peut imaginer pire que la mort de leur ami et maître, ceux en qui ils avaient placé leur espoir pour le salut de leur nation. Simon-Pierre, un des disciples qui était dans cette salle, qui a entendu Jésus dire ces mots, écrira plus tard aux chrétiens, « Vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. » Ça veut dire que ça fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire sur la vie chrétienne, mais c'est une partie légitime de la vie chrétienne que nous soyons éprouvés. Et par ces diverses épreuves, nous ressentons de la tristesse. Des familles qui se déchirent, des difficultés financières, des soucis par rapport à l'addiction d'un proche, des maladies, des attaques spirituelles. La tristesse de voir un ami non-croyant mourir et se perdre. C'est là où le bouddhisme est tellement néfaste. Le bouddhisme enseigne que, en fait, la souffrance n'est qu'une illusion, qu'il faut juste être impassible et ne pas ressentir de la tristesse face à nos pertes. Mais la Bible nous montre un autre moyen, une autre façon de réagir. La Bible nous dit, non, on ne nie pas les souffrances. Dieu comprend nos peines et nos larmes. Il sait que ça fait partie de notre vie en tant qu'être humain. Elles sont réelles, nos souffrances. Elles sont légitimes. Le lendemain, Jésus pendait sur la croix. Il était mort. Il est mort juste avant les deux brigands qui étaient à côté de lui. Décédé. Et le monde se réjouissait. Pour les Romains, la paix de Rome était assurée. Un rebelle en moins. Une figure messianique en moins sur la terre. Ils avaient fait leur travail. Pour les chefs religieux, ils étaient heureux aussi. Ils ont enfin eu leur homme. Ils étaient tant acharnés sur lui depuis si longtemps, ils trouvaient ces déclarations insupportables, ces déclarations incendiaires, ces followers, ils en avaient marre. Et il se disait, bon débarras. Plus jamais on ne parlera du nom de Jésus. Ce vendredi saint, disait-il, on va l'oublier. On n'en parlera plus. Comment ils se sont trompés, n'est-ce pas? Mais pour les disciples, c'était la tristesse. Quelle tristesse ce jour-là, au mont du Calvaire, ou peut-être chez eux, en train de fuir la difficulté. Mais, Jésus dit, votre tristesse se changera en joie. Regardez le verset 20, c'est ce qu'il dit là. Il a cherché et il a trouvé l'illustration qu'il faut au verset 21. Dans la vie, il a pensé à un exemple où la tristesse se change rapidement en joie. Et vous connaissez cela, toutes les femmes qui ont accouché comprendront cela. J'imagine que c'était pareil pour Nadège aussi, la femme d'Edouard, avec cet accouchement cette semaine. Qu'est-ce qu'il dit, verset 21 ? Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Et c'est pour ça que les femmes ont un deuxième enfant quand elles ont eu un enfant. Elles ont oublié la peine que ça leur a infligée. Sa joie, voyez-vous, dépasse la tristesse. Elles étaient tristes et puis elles sont tellement joyeuses qu'elles oublient la peine, la tristesse. Jésus n'est pas en train de dire que la tristesse n'existe pas ou ne touche pas les chrétiens, mais il est en train de dire que quelque chose de si merveilleux, quand il montre l'issue de la tristesse, c'est à travers deux vérités essentielles qu'il va annoncer sur ce point. Tout d'abord, au verset 22, la résurrection. Il dit, ils vont revoir Jésus. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Vous avez imaginé cela ? Revoir Jésus, ce n'est pas simplement le revoir, mais c'est de savoir que la mort n'est plus rien. Jésus avait un ami qui s'appelait Lazare, et cet ami-là, en Jean 11, la Bible nous dit, Jésus l'a ressuscité. Pour ses sœurs, c'était une grande joie de le revoir, de pouvoir être à nouveau avec lui. Mais il allait quand même mourir un jour, Lazare. Quand Jésus est ressuscité, c'est différent. Personne ne pourra le tuer à nouveau. Jésus a mis fin à la séparation de la mort. Le pouvoir de la mort est terminé grâce à cette résurrection. Alors cette réalité-là change notre joie, n'est-ce pas ? Elle la rend plus solide, plus durable. Parce que nous savons que c'est pour toujours notre vie avec le Seigneur, notre relation avec lui. C'est pour toujours, avant et après la mort. Et si nous sommes dans la situation où la mort nous a enlevé un ami ou un parent proche, et que cet ami était en Christ, oui, la peine est légitime. Mais n'oublions pas, la joie est ultime. Réjouissons-nous de l'avenir, de se revoir. Réjouissons-nous que cette personne est déjà dans la présence de Dieu. Et toujours sur ce point, la tristesse est changée par la prière. Au verset 23 à 24, Jésus annonce un accès au Père comme jamais auparavant. Et il dit, au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Vous voyez la joie qui découle de la prière. Il sera possible enfin, comment ça marche ? On vient et on demande dans le nom de Jésus. Alors ce n'est pas une question de juste ajouter la phrase « au nom de Jésus » à la fin de nos prières. Mais c'est plutôt que nous entrons par le nom de Jésus en relation avec Dieu pour que Dieu nous entende, que nous puissions demander au Père, Dieu le Père, de nous répondre, de nous aider. Alors, dans certains endroits, il y a de la sécurité. Peut-être que dans votre bureau, il y a une sécurité sur la porte. Il faut un badge pour entrer. Vous avez besoin d'un badge pour entrer. C'est un peu pareil avec la carte STIB. Je cherche dans mon portefeuille. Voilà. La carte STIB, n'est-ce pas ? Vous devez avoir la carte pour ouvrir le portail. Et si vous n'avez pas la carte, ben vous ne pouvez pas entrer. Mais c'est un peu pareil comme ça. Vous avez besoin de la carte de Jésus pour entrer en relation avec Dieu le Père et pour lui prier, pour lui demander quelque chose. Ou le mot de passe pour pouvoir envoyer un mail. un autre mot de passe, c'est Jésus. Ce n'est pas littéralement mon mot de passe, sinon je vous l'aurais tous dit. C'est le mot de passe qu'on a pour prier à Dieu le Père. C'est une façon de parler de l'accès spécial que nous avons auprès de Dieu. Alors allons-nous utiliser ce privilège pour demander bêtement juste un petit coup de main pour nos petits soucis, plus de confort, plus de facilité pour notre vie? Ce serait dommage. Je sais ce que le disciple aurait pensé. Ah, enfin, on pourra demander à Dieu et il pourra nous donner des réponses. Verset 13, regardez le verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Là, il dit, vous ne m'interrogerez, verset 23, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Des explications, de la lumière, de la compréhension des choses de Dieu, tout cela, il nous le donnera si on le demande. Quel plaisir aussi de venir à Dieu avec une requête pour son Église, pour ses enfants, pour nous, et puis de voir que nous recevons ce que nous avons demandé. C'est vrai que quand il parle de joie, c'est quelque chose qui nous donne la joie, n'est-ce pas? Quand on dit « Ah, Dieu m'a écouté, Dieu m'a exaucé, il m'a donné ce que j'avais demandé. » Ou il a donné à une sœur ou à un frère quelque chose que j'ai demandé. Waouh, ça nous fait du bien. Alors, si nous sommes de nature plus grincheuse, nous devons aussi apprendre ici. Que notre joie soit différente, que notre joie soit en Christ. C'est un chantier sur lequel Dieu doit travailler en notre cœur. Pour certains, c'est peut-être plus difficile que pour d'autres chrétiens. Mais demandons à Dieu de nous donner la joie. Cela fait partie de la vie chrétienne, c'est légitime, c'est ultime d'avoir de la joie. Ne pensons pas à nos défaites, à nos difficultés, à nos désagréments, plus que nous ne pensons à la bonté du Seigneur, parce que cette bonté dépasse tout ce que nous connaissons sur la terre. Lisons la suite. Verset 25. Je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père, de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. » Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Cette section nous parle de la pression du monde et de la paix en Christ. À nouveau, il y a un cycle. Jésus fait une déclaration, les disciples réagissent, et puis il y a une explication de la part de Jésus. Jésus dit qu'il parlait en parabole. C'est vrai, il avait des discours figurés. Il avait dit qu'il était le cep et qu'ils étaient des sarments. Il avait dit qu'il était le chemin qui conduisait vers le Père. C'était des images, des paraboles qu'il utilisait. Il avait même dit que les disciples étaient comme des orphelins, mais que Dieu, le Père, allait s'occuper d'eux, viendrait vers eux. « Je vais parler ouvertement du Père, » dit-il. Et au chapitre 17, il y a un bel exemple de cela, le chapitre suivant, verset 11, la deuxième partie du verset 11. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Oui, Dieu, le Père, est saint. Jésus utilise maintenant un langage qui n'est plus figuré, un langage simple et clair. Et il annonce à nouveau l'amour de Dieu le Père. Alors si vous êtes là depuis quelques semaines, vous aurez entendu déjà qu'on a parlé de l'amour de Dieu le Père. Et donc ici, il veut clarifier quelque chose qui est un peu ce qu'on n'a pas vu jusque-là. Peut-être que ça vous fait penser à votre famille. Peut-être que dans votre famille, père sévère, ce n'est pas un encouragement, c'est une description d'un père qui était sévère. Dans certaines familles, le papa est très dur. Je passais derrière un papa dans la rue, un papa avec qui marchait avec ses enfants, je ne le connaissais pas, et l'un des petits-enfants ramassait un truc. Et le papa dit « Arrête, arrête, je t'ai déjà dit, arrête de ramasser des trucs, arrête de toucher à tout. » Et il s'est vite énervé. Je me suis dit « Oui, je suis parfois comme ça aussi. » Mais on ne doit pas imaginer Dieu comme ça, comme un Dieu père énervé. Et quand le papa s'énerve, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quelqu'un de raisonnable, de gentil. Souvent, c'est maman, n'est-ce pas, qui va calmer les choses. Parfois, c'est maman qui s'énerve, c'est le papa qui est là. Parfois, c'est l'inverse. Un grand frère ou un ami, je ne sais pas. Et je connais des gens qui ont souffert de cela. Et ils croient que Dieu est le même. Que Dieu est ce père énervé, fâché sur eux, et qu'ils ont besoin de Jésus pour un peu calmer les choses. Heureusement qu'il y a Jésus, parce que Jésus va dire « Oui, mais Père, calme-toi. » Je n'enlève rien à la justice de Dieu, évidemment, et à son jugement, qui est une réalité. Il va juger par Jésus. Mais le verset 26 exprime quelque chose que Jésus doit dire. Il ne doit pas dire « Oh, calme-toi. Sois gentil avec eux. » Et quand il parle de Dieu le Père, il dit ceci, verset 26, « Je ne vais pas prier le Père pour vous. » Verset 27, « En effet, le Père lui-même vous aime. » Le Père lui-même vous aime. Vous aime. Parce que vous m'avez aimé, vous avez cru et que je vous ai cru que je suis sorti de Dieu. Alors, comment concevez-vous parler avec Dieu, le Père ? Est-ce que c'est comme passer au bureau du directeur ? Vous êtes là dans le couloir, mais attention, ça va être un mauvais quart d'heure. Parce qu'il va dire tout le mal que vous avez fait ça et ça et ça et ça. Et non, si vous avez aimé Jésus, si vous avez cru en lui, vous avez déjà pleuré sur vos fautes, votre péché, ben le Père vous aime. Le Père vous aime. Et donc, maintenant, verset 29, ils ont compris. Ah oui, maintenant, on comprend, tu parles ouvertement. Et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Il y a des gens qui répondent très bien aux questions. Lorsqu'on a une question, tu leur poses une question, et ils te répondent 2-3 minutes, et ils ont tout expliqué, et tu comprends tout. C'est bien, n'est-ce pas, d'avoir ce don-là. C'est tellement lucide, tellement clair. Et puis tu poses une autre question, et ils ont aussi une réponse à cela. C'est vrai que c'était un peu comme ça. Souvent, les disciples posaient des questions, et puis Jésus donnait des réponses. Mais là, il les instruisait, sans question. Et même au verset 17, ils avaient posé cette question entre eux, et Jésus savait ce qu'il disait entre eux. Et il avait répondu à cela. Mais maintenant, il dit, il sait tout, il peut tout dire. Et il explique que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. J'attire juste votre attention sur cela. Dieu sait tout. Et Jésus a dit qu'on n'a pas besoin d'informer Dieu dans nos prières. Je ne viens pas pour informer Dieu. Je viens pour articuler devant Dieu une demande. Mon sentiment, ce que je ressens, ce que je souhaite, ce que je lui soumets. Mais je ne viens pas parce que Dieu ne sait pas ma situation, ne connaît pas ma situation. Alors je ne suis pas expert en prière, mes prières sont pauvres, elles sont inadéquates, elles sont peu impressionnantes. Mais je crois. Et quand je viens à Dieu, je sais que Dieu sait tout, que Jésus est sorti du Père pour venir sur terre, et j'ai une relation qui est établie avec Dieu le Père, grâce à l'Esprit. Et en la vérité, je peux lui poser des questions, je peux lui demander des faveurs, je peux lui présenter des requêtes. Alors les disciples disent qu'eux aussi, ils croient. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et Jésus, un peu provocateur, n'est-ce pas, il dit, ah bon, maintenant vous êtes devenu croyant. Ah maintenant vous croyez. On va voir après. On va voir si ça va tenir. Je sais que dans quelques minutes, vous allez tous vous enfouir et me laisser. Jésus savait cela. Mais en même temps, il savait aussi qu'il croyait. Regardez le verset 27. Il avait dit, vous m'avez aimé, vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc ce que Jésus fait là, en fait, il les met au défi de croire. Très souvent, nous surestimons nos capacités. Nous pensons que nous sommes meilleurs que nous le sommes. Et vient l'épreuve et on voit vraiment comment on est, n'est-ce pas? Et Jésus savait que dans l'épreuve qu'ils allaient vivre, ils allaient tous chuter. Néanmoins, je vais arriver au verset 33. Vous êtes restés avec nous jusqu'au bout, c'est toute la fin du chapitre 16, verset 33. Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Quelle chose étrange à dire. Je vous ai dit cela, moi j'aurais dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez quoi ? La foi en moi. Ayez un peu de foi. Ou je vous ai dit cela afin que vous ayez la persévérance. Allez les gars, persévérez, ça va être difficile. Mais Jésus est beaucoup, beaucoup meilleur que moi. Et dans sa bonté, il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. À la fin des années 60, 1960, un mouvement naissait aux États-Unis qui s'est alors répandu. Et si vous avez 60 ans et plus, ou vos parents, grands-parents ont vécu ça, vous serez familier avec cela. Le mouvement annonçait une liberté des normes sociétales. Et particulièrement, voulait se débarrasser de la violence qui était présente dans les guerres à l'époque et dans la société. La paix est devenue leur valeur clé. Et pour vivre dans la paix, il fallait pas de la violence, mais de l'amour. Peace and love. La paix et l'amour. C'était le message des hippies. Alors c'est facile de paraître un peu hippie aujourd'hui, parce qu'on parle de l'amour de Dieu et on parle de la paix. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence majeure entre le message des hippies, qui était un message tout à fait humain, et le message de la Bible, qui est un message divin, même si les valeurs se ressemblent. Qu'est-ce qui nous distingue des hippies ? C'est que la paix et l'amour sont associés à une personne. C'est une personne, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et c'est sa paix en moi, la paix que Jésus donne. Ce n'est pas l'absence de conflit ou de trouble. Il est très clair sur cela. Ce qui attend les disciples, vous aurez à souffrir dans le monde. Et je peux vous le dire aujourd'hui, ça s'est avéré, c'est la vérité. Vous aurez des ennuis, vous aurez des problèmes, la vie va être difficile. C'est une garantie, 100%, c'est écrit dans la Bible. Mais ce qui change la donne, c'est que Jésus a eu victoire sur le monde. Il n'y a rien dans le monde qui soit si grand ou si puissant qu'il peut faire chavirer le plan de Dieu, qu'il peut faire que le plan de Dieu pour sauver les élus qu'il donne à son Fils échoue. Non, c'est Dieu qui gagne. C'est Jésus qui gagne à la croix et à la résurrection. Il dit « J'ai vaincu le monde ». C'est quelque chose de formidable. Ce qui nous semble donc insurmontable quand on est dans la peur, quand on a peur pour notre avenir ou pour notre famille ou pour notre petite vie, ce qui nous semble insurmontable n'est pas insurmontable. C'est déjà une garantie que Jésus l'a surmonté. La lutte ne sera pas permanente, elle sera finie un jour, la lutte avec le péché, la lutte avec le doute, la lutte avec la tentation. L'avenir est déjà décidé. Et il n'y a pas deux forces égales, le monde et Jésus, et on va voir qui gagne entre les deux. C'est déjà décidé, Jésus va gagner. Il a gagné la croix, il va gagner la fin des temps. Il n'y a rien qui est à la mesure de la grandeur de Dieu. Jésus sortira victorieux. Alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Prenez courage. N'est-ce pas intéressant qu'il dit au verset 33, il ne dit pas « Soyez victorieux », mais dit « Soyez courageux, ayez confiance ». En qui est notre confiance ? Est-ce que c'est en nous parce qu'on est des battants ? Parce qu'on sait se battre ? Mais non. Notre confiance est en lui, parce que c'est lui qui gagne. Je vais terminer avec l'histoire de David et Goliath. Vous connaissez cette histoire, les enfants ? Le jeune David et le méchant géant Goliath. Qu'est-ce qui se passait là ? Le peuple de David était rangé d'un côté, le peuple de Goliath était de l'autre côté. Et le peuple de David avait peur du géant Goliath. La Bible nous dit que tout le monde avait peur du géant, tellement il était intimidant. Et il nous arrive aussi d'être intimidé par les forces du mal. On voit ce qui se passe dans notre vie, on dit « Waouh, c'est destructeur, c'est dévastateur, c'est intimidant. » Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, le peuple ne s'est pas battu. Ils ne sont pas dit « Allez, on va aller, on va essayer. À 100, on va essayer de battre Goliath. » C'est pas ça. Il y a eu un homme qui a été désigné par Dieu et qui s'est battu à la place de son peuple. Et David a gagné. Et nous sommes alors comme le peuple de David qui a simplement célébré sa victoire. Jésus a gagné, dit-il. Il est victorieux sur le monde, sur le péché, sur le mal. Et nous disons, ah bien, c'est très bien. Je veux être dans son camp. Je veux lui appartenir. Parce qu'avec lui, je recevrai la victoire finale, l'approbation de Dieu, cette nouvelle relation. Prenez courage, Jésus a vaincu le monde. Notre Père, nous voulons simplement te remercier parce que tu es tout-puissant et que tu as mis ta puissance à l'œuvre dans ta bonté pour nous sauver, pour nous libérer. Et aujourd'hui, même si nous sommes bien faibles et fragiles, reconnaissons ces pressions qui pèsent sur nous. Mais nous voulons aussi lever la tête et dire « Notre secours vient de l'Éternel, celui qui a envoyé Jésus, son Fils unique, mourir et ressusciter pour nous sauver. » Aujourd'hui, Seigneur, accorde-nous la paix, que nous puissions recevoir ton amour, mais aussi accorde-nous d'être courageux en regardant vers l'avenir, en comptant sur toi et pas en ayant peur comme si tu n'étais pas là. Ou comme si tu n'allais pas nous garder. Merci Seigneur pour la confiance que tu nous accordes en Jésus. Amen.